Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est le thème des états généraux de la justice sur lequel se focalise aujourd'hui le magazine de promotion de vos droits et devoirs avec l'intersyndical des magistrats et le syndicat chrétien des magistrats du Congo, Saint-Crémac, ainsi qu'avec l'école de pensée en droit pénal de l'université de Kinshasa, Skiré, et le ministre de la justice. Excellente écoute à tous. Ridianda, pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Vous, en tant que magistrat syndicaliste, vous pouvez comprendre le choix de ce thème.
Ouais, je voudrais pas rentrer dans ce que le thème de ces états généraux, mais je dis des états généraux, c'est pour diagnostiquer de l'état de la justice aujourd'hui, comme ça l'a été en 2015, comme ça l'a été avant 2015, donc avec les états généraux qui ont eu lieu en 2004, il y a eu aussi des travaux comme ça, sectoriel sur le plan de la justice, qui a dû produire un plan d'action en 2007, donc un plan d'action de 2007 à 2012 qui devait pouvoir régir la politique nationale de la justice. Et ben, je crois que après 2012, donc après que nous ayons ce document là, le document qui a eu en 2007 sur la politique nationale sur la justice du pays, on a en 2012 il était arrivé à son terme. Je crois que 3 ans après, on a considéré qu'il y avait encore à faire et que bon, ce plan d'action là n'avait pas donné ou le résultat qui avait été escompté et qu'on a estimé que bon, il fallait qu'on puisse faire les états généraux. Et c'est au base des états généraux qu'il y a eu en 2015. Ils ont pu tirer plus de 350 résolutions pour avoir en 2017 carrément un plan, disons un document sur une politique, sur la politique nationale de la réforme de la justice. Voilà, qui va de 2017 à 2026. Donc, pour dire pour aujourd'hui, s'il y a encore des états généraux, c'est-à-dire 9 ans après, nous estimons que le magistrat suprême, qui est le chef de l'État, a estimé, parce que c'est lui qui a parlé de la maladie de l'appareil judiciaire, de la justice de notre pays plutôt. C'est dire qu'il a voulu qu'on puisse poser encore un diagnostic ou bien évaluer ce qui avait déjà été fait ou bien l'état de la justice actuelle pour voir ce qui ne va pas et dans la mesure du possible voir quelles sont les solutions ou bien quelle est la thérapie qu'il faut pour que la justice puisse se remettre.
Vous avez évoqué les états généraux de 2015 qui avaient produit un document de politique et de réforme de la justice pour la période allant de 2017 à 2026. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même travail?
Je crois que la politique judiciaire est définie par le gouvernement et que bon, on a vu qu'il y avait des faiblesses par rapport à ce document-là et qu'il fallait peut-être le réévaluer pour que l'on puisse avoir un autre document qui soit un peu plus efficace pour arriver à donner des solutions aux problèmes qui avaient été posés à l'époque. Parce que je crois que la grande thématique lors des assises de 2015, c'était sur l'accès à la justice. C'est également un point particulier sur la moralisation des acteurs de la justice. Donc si on doit dire, c'est une chaîne. Hein. Il ne s'agit pas seulement des magistrats quand on parle de la justice. Hein. Vous voyez bien que ça remonte un peu jusque
au niveau des avocats, tous
les intervenants, hein, même les organisations de non gouvernementales, hein, qui est des partenaires aussi qui interviennent. Donc vous comprenez. Donc si aujourd'hui on va aux états généraux, nous disons que on a considéré que bon, il y a des faiblesses quelque part, mais qu'il fallait voir comment est-ce qu'il arrivait à donner une thérapie. Je sais que bon, en 2015, il y avait 8 thématiques qui avaient été exploitées pour que ça puisse fondre et arriver à donner plus près de 350 résolutions.
Il y a par exemple la politique pénitentiaire qui était bien définie en 2015 avec la création d'un organe de gestion de nos prisons qui était prévu.
La DGAP, voilà. Écoutez, mais par exemple, vous avez vu que nous avons eu des problèmes ici avec nos prisons.
Excusez-nous, nous avons fait partie de ce groupe thématique sur le pénitentiaire. Mais aujourd'hui, on sent que c'est vraiment un besoin. Les textes sont pratiquement prêts, à ce que je sache. En ce qui concerne la DGAP, la loi devant organiser cette direction-là qui
aussi en principe d'être implémenté au niveau de toute la République. Mais qu'on aille sur le plan pénitentiaire, voilà des problèmes qu'il y a, qu'on puisse aller d'abord avec cette loi-là. Ça va nous aider à ce que nous puissions pas chaque jour crier comment est-ce que le magistrat du parquet n'a pas fait son travail, où il y a des libérations conditionnelles qui doivent être préparées ici et là. On commence à chercher des responsabilités à gauche et à droite. Voilà, par exemple, des problèmes qu'il y a. Le cadre de concertation que nous disons aujourd'hui entre le ministère de la Justice et le CSM, je crois que ça va être très formel. Aujourd'hui, on sent encore qu'il n'y a pas tellement une bonne, comment dire, des interactions entre le ministère de la Justice et le CSM.
En tant que l'homme du métier, quel diagnostic faites-vous de notre justice? Ou bien, quelle maladie pouvez-vous déceler de notre justice? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer pour la guérir?
Je reviendrai toujours dans ma peau de syndicaliste. Hein. Moi, je défends les intérêts socio-professionnels des magistrats. Je dis que l'on puisse mettre les magistrats dans les conditions de travail et puis en attendre ce qu'ils peuvent bien donner. C'est vrai, je ne peux rien justifier. Je ne dis pas que non, les magistrats sont le maillon le plus faible, ou bien je dis que ceux qui sont les parents pauvres de notre société congolaise, je ne dis pas ça, mais que l'on donne, qu'on mette les magistrats dans des conditions convenables. Regardez, les magistrats sont ici, ne fût-ce que pour leur déplacement, aller rejoindre leur poste d'affectation. Ça pose problème. Ça pose problème, il n'y a pas de moyens. Comment est-ce qu'on va organiser aujourd'hui, nous disons, ou non, on va organiser des foraines? Des foraines, déjà, pour organiser des foraines ici, dans une capitale comme celle-ci, à Kinshasa, cela pose des problèmes. Alors, si nous allons dans l'arrière-pays, parce que la justice, c'est pas ici seulement dans la ville de Kinshasa, ou bien dans les grandes villes de la République, mais dans l'arrière-pays, pour faire des distances, pour arriver dans des contrées parfois très difficiles pour aller organiser des foraines, comment on le fait? Avec quels moyens? Les magistrats qui n'ont pas de véhicule aujourd'hui, mais je vous dirais même ici, encore un peu plus, ici dans la ville de Kinshasa, est-ce que vous avez un premier président de cour d'appel ici, un procureur général qui soit véhiculé? Mais ça n'y a pas. Ça n'existe pas. Les véhicules de fonction, ils n'ont pas de véhicule de fonction. Alors comment allez-vous organiser tout ça dans l'arrière-pays et croire que non, voilà, que la justice puisse être accessible à nos concitoyens qui se retrouvent dans ces contrées-là? Voilà, c'est parmi des questions qui avaient été posées lors, des diagnostics qui avaient été posés lors des derniers états généraux. Mais est-ce qu'à ce jour, il y a eu des réponses à cela? Je ne pense pas. Alors, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être d'évaluer, de réévaluer, si on doit le dire, hein, parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter de faire. Hein, et si on évalue, on peut réévaluer et voir qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et voir dans quelle mesure on peut avancer. Mais je crois que c'est ça.
Est-ce que les mauvaises conditions de travail ou conditions sociales des magistrats peuvent justifier la mauvaise administration de la justice, le mauvais comportement de certains magistrats qu'on qualifierait de magistrats verrés ou mafieux?
Non, de ce côté-là, vous savez, nous avons toujours dit que les moyens sont nécessaires parce qu'il y a des chambres de discipline qui doivent s'occuper de la discipline des magistrats. Mais lorsque ces chambres de discipline ne sont pas opérationnelles, faute de moyens, comment on fait? Ce magistrat, c'est vrai, regardez, nous avons un bel exemple, c'est il y a quelques jours, nous avons vu une mission d'inspection du procureur général près de la Cour de cassation à Kinkole, qui est allé trouver là sur place qu'il y avait un...
Parce que le ministre de la Justice a tonné. Auparavant, on ne voyait pas cette mission d'inspection du procureur général. Et le ministre de la Justice, c'est lui qui a stimulé...
Les missions du procureur général sont légales, hein, ces missions sont légales.
Mais auparavant, on ne voyait pas le procureur général descendre sur le terrain, visiter des amigos comme il l'a fait, prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des magistrats.
Non, nous avons presque deux décennies de carrière dans la magistrature. Nous avons commencé au parquet et nous savons comment est-ce qu'il fallait aller visiter les amigos. Ça, ce sont les fonctions des magistrats du parquet, hein, de tous les jours. C'est vrai que parfois, ces missions d'inspection-là, de niveau des parquets supérieurs sur les parquets inférieurs, c'est pour essayer de stimuler l'action des magistrats qui sont dans les juridictions, dans les offices des parquets ou les juridictions inférieures pour les pousser à travailler, hein, pour demander à ce qu'ils puissent, lorsqu'il s'agit des cours des tribunaux, pour essayer de voir, de respecter les délais de prononcé de leurs décisions, des jugements et arrêts, et ainsi de suite. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut avoir le ministre de la Justice qui a aussi, il a le pouvoir d'injonction. Hein. Tout ce qui est prévu par la loi, je crois que ça pose pas problème. Hein, je crois que chacun a son travail. Lui, il peut donner son injonction et par la suite, je crois qu'il ne peut plus poursuivre. Hein, que l'on puisse s'occuper du pénitentiaire. Et ça, c'est vraiment une mission du ministre de la Justice. Le pénitentiaire, c'est son affaire. Que l'on puisse avoir des prisons, des nouvelles prisons, ok, construites. et qu'ils fassent ce plaidoyer là au niveau du gouvernement et que l'on puisse avoir on n'aura plus ce problème de surpopulation carcérale. C'est vrai qu'on n'aura pas mis, ça ne sera pas surpopulation carcérale zéro, mais non, mais quand même essayer d'atténuer ce que nous vivons aujourd'hui, parce que la prison de Makala, c'est pratiquement un mouroir. Mais cela ne peut empêcher à ce que les magistrats du parquet puissent faire leur travail. Sinon, la paix sociale ici qui est caractérisée par la justice, dont les animateurs, les magistrats sont là, on ne va pas demander à ce que l'on puisse pas arrêter. Il y a certains qui ont été libérés et qui aujourd'hui qui sont en train de récidiver. Et vous voyez bien, vous avez même suivi, le chef de l'État tient à ce que l'on puisse avoir des audiences foraines qui se tiennent pour que l'on puisse arriver à éradiquer ces phénomènes
du banditisme
urbain.
Et à ces états généraux, quelles peuvent être vos attentes, vous, syndicalistes?
Lorsque, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, qui est magistrat suprême, dit que la justice de son pays est malade, je crois qu'il sait de quoi il s'agit. Il sait où se trouvent les problèmes. Il sait, il doit savoir, parce qu'il dit aujourd'hui qu'on puisse poser le diagnostic. Au bout du diagnostic qui sera encore posé aujourd'hui en 2024, aujourd'hui en 2024, 9 ans pratiquement après que les états généraux de 2015 se soient tenus, je crois qu'à partir de ça, il aura aussi, si cela, on fait un pose et un diagnostic sérieux, profond, pour donner vraiment, pour chercher à ce que nous puissions avoir des solutions idoines aux problèmes qui sont en train de planturer un peu la justice de notre pays, ce chef de l'État, je crois, tirera des conséquences sur base de ce qui lui va lui être présenté en sa qualité de magistrat suprême pour dire que nous puissions en parler. Nous n'allons pas revenir. Il y a des problèmes du budget du Conseil supérieur de la magistrature, du pouvoir judiciaire, par exemple. Comment est-ce qu'une institution a un pouvoir, on dit un pouvoir qui n'est pas autonome dans son budget? Comment est-ce qu'il est à mesure de tenir des dépenses, comment dire, des dépenses, des investissements, c'est-à-dire avoir des investissements, parce qu'au-delà des salaires qui sont payés au quotidien aux magistrats, disons chaque mois mensuellement aux magistrats, mais il y a quand même d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a des bibliothèques qui n'existent pas. Il y a des bâtiments qui, lorsque vous allez dans l'arrière-pays et que vous n'allez pas trouver, comment est-ce qu'on va arriver à résoudre tous ces problèmes-là? Des magistrats, je vous ai posé le problème ici des magistrats, de leur transport et tout ça. Ça n'existe pas. La formation continue des magistrats, ça n'existe pas. Il faudrait seulement que nous puissions avoir des partenaires techniques, disons des partenaires étrangers qui viennent pour organiser des ateliers, pour la mise à niveau des magistrats. C'est, non, il faut qu'il y ait une formation continue. Et cela sort d'où? Comment cela doit pouvoir être fait? Je crois que au bout de ces réflexions-là, si on arrive à poser un diagnostic sérieux, je crois qu'on peut remettre ces résolutions-là sur la table du chef de l'État, qui est magistrat suprême, pour voir dans quelle mesure il peut orienter les choses, pour voir la justice de son pays être guérie ou bien, soignée. Hein? Soignée, si on devait le dire comme ça, parce que la guérison est soignée.
Oui, oui. Oh, est-ce que les syndicalistes ont un cahier de charges à soumettre aux participants, aux états généraux de la justice?
Nous avons un cahier de charges, ça ne peut pas manquer. Nous avons un cahier de charges.
Comment il est décliné?
Mais la difficulté que nous avons, nous disons, nous ne savons pas sur quoi va se baser, quelles sont les grandes thématiques de ces états généraux.
Mais c'est, vous avez participé aux travaux préparatoires, vous en savez
non,
plus quand même.
Non, aux travaux préparatoires, je vous ai dit que c'est une partie. Nous avons les travaux, il y a plusieurs commissions. Il y a plusieurs commissions. Nous avons été, nous, particulièrement dans une commission qui n'a pas eu à mener, à organiser un peu l'organisation... organisation interne de ces travaux-là, pour dire, par exemple, sur les thématiques, c'est le plus important, pas sur l'organisation matérielle. C'est pas ce qui nous importe, mais c'est vrai. Même dans l'organisation matérielle, aujourd'hui, nous apprenons que, il y a des chefs de juridiction, des ressorts qui se trouvent dans des provinces, qui ne savent pas rejoindre Kinshasa pour venir participer aux états généraux, alors que les invitations sont lancées. Comment ils viennent? Nous ne savons pas comment répondre. Ce sont des problèmes des magistrats, que nous pouvons dire aussi, mais bon, on organise les états généraux. Comment est-ce que les chefs de ressort à travers la République vont atteindre Kinshasa?
Ça relève des organisateurs.
Des organisateurs, absolument.
Oui. Henri Dianda, je vous remercie.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
Après Henri Dianda, le fondateur de l'école de pensée en droit pénal, le professeur Espoir Massamanki, attend des états généraux de la justice des discussions des passionnés sur la justice militaire en RDC.
Une justice militaire brutale, agressive, avec lenteur dans le traitement des dossiers, torture, l'absence de contrôle en ce qui concerne les détentions préventives. Nous venons de le suivre tout à l'heure, là, parmi les exposants. Comment faire pour casser cette perception négative que l'opinion s'est fait sous la justice militaire?
Déjà, effectivement, ce sont des opinions et vous savez que les opinions, c'est des points de vue qui sont donnés et c'est de manière brute. Voilà pourquoi la conférence participe justement de laver les cerveaux de la population qui a toujours une perception négative. Encore que nous ne disons pas que tout est parfait, justement, nous appelons les acteurs judiciaires pour qu'ils relèvent des éléments qui ne marchent pas et qui ne permettent pas une bonne administration de la justice afin de déboucher vers des propositions de réformes, parce qu'il faudrait, les lois sont conçues par des hommes, et là où le travail humain, c'est toujours un travail qui est imparfait, et ici donc nous venons discuter scientifiquement, relever les failles qui ne permettent pas une bonne administration de la justice, afin de proposer de très bonnes réformes pour que notre justice militaire devienne cette justice qui respecte le droit à un procès équitable.
Quelles sont les perspectives de réformes que vous envisagez?
Les perspectives de réformes sortent de ces réflexions. Par exemple, aujourd'hui, vous avez les civils qui sont tout le temps jugés devant les juridictions militaires, alors que notre constitution n'a pas autorisé à ce que des civils soient jugés par des juridictions militaires. Nous avons un code judiciaire militaire qui continue à conserver des dispositions qui autorisent aux juridictions militaires de juger les civils, alors que ces dispositions sont inconstitutionnelles. C'est un aspect de la réforme. Vous avez la question de la détention préventive. Aujourd'hui, en justice militaire, il n'y a pas de contrôle de légalité. C'est le contrôle administratif ou le contrôle de la hiérarchie. Le juge n'intervient vraiment pas en chambre de conseil pour statuer sur la détention préventive. C'est un point de la réforme. Il y a également l'aspect de l'article 129 qui autorise à ce que les juges militaires puissent appliquer notamment les codes des procédures pénales ordinaires. Mais c'est une disposition qui donne une certaine latitude aux juges militaires. Il faudrait qu'il y ait des réformes pour que ces dispositions du code des procédures pénales militaires qui doivent être appliquées devant les juridictions militaires soient intégrées de manière correcte dans les codes judiciaires militaires pour ne pas donner aux juges la possibilité de choisir entre les règles spécifiques et les règles ordinaires.
Quelles peuvent être vos attentes en tant qu'universitaire des états généraux de la justice?
Nos attentes, c'est qu'au niveau des états généraux de la justice, qu'on puisse discuter de manière dépassionnée, parce qu'on a toujours stigmatisé la justice militaire comme cette justice que l'État utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il a avec des individus qui peuvent avoir des démêlés politiques. Je crois que c'est une occasion de considérer que c'est une justice normale qui doit respecter des règles établies dans un état de droit, et il faudrait qu'on discute et que la question de la réforme du code judiciaire militaire soit posée clairement et qu'on aboutisse effectivement à un nouveau code judiciaire qui respecte toutes les règles établies dans un état de droit.
Vous venez de clôturer votre cours sur la procédure pénale militaire, et qu'est-ce qu'on peut revoir sur cette procédure militaire?
C'est toutes les questions de réforme que je viens de relever sont des aspects procédurales et ce sont des matières que j'enseigne aux étudiants en procédure pénale militaire, parce que effectivement la procédure pénale militaire a le même processus que la procédure pénale ordinaire, que j'appelle processus de mise en forme pénale. Ça commence toujours par un avant-procès, l'enquête, et c'est dans l'enquête qu'il y a la question de la détention préventive qu'il faudrait nécessairement retoucher. On a le procès pénal, Et on a également l'exécution des décisions de justice, parce que il y a un autre aspect dans l'exécution des décisions de justice, c'est que même le président de la République, les ministres de la Défense et même l'auditeur général a le pouvoir de suspendre une décision de justice qui a été exécutée. Et ça, ça ne rentre pas dans les attributions d'un auditeur ou du président de la République, encore moins du ministre de la Défense. Donc c'est des dispositions qu'il faudrait regarder de près pour éviter de dénaturer la question de la justice, des questions de justice militaire, qui est une justice normale, comme je ne cesse de le répéter.
On va clore maintenant ce chapitre avec le ministre d'État et ministre de la Justice sur l'économie qu'il fait de la thématique des États généraux de la justice.
Le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrire les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes, et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Ce que pense Constant Mutamba par rapport au dossier du journaliste Mike Mukebayi.
Nous allons également, j'ai reçu la lettre de Mike Mukebayi. Croyez-moi, nous sommes suffisamment impliqués pour que la bonne justice soit dite. Et elle sera dite. Donc, je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez une issue du dossier Mike Mukebayi. Donc, sans interférer dans le fond, dans l'instruction et même dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous allons veiller que ces droits soient protégés et garantis.
La différence qu'il fait entre les États généraux de 2015 et ceux de 2014.
Les États généraux de 2015 avaient constitué un moment décisif et ont débouché sur l'élaboration de la politique nationale des réformes de la justice congolaise. Mais il faut dire que seuls 21% de ces recommandations, 350, ont été exécutées. Nous avons amorcé évidemment ces états généraux par une première phase, parce que je vous rappelle qu'ils s'organisent en trois phases. La première phase était l'évaluation des états généraux de 2015, organisée par le ministre d'État de l'époque, Alexis Thambou Mwamba. Les travaux se sont déroulés à Zongo, dans le Congo central. La deuxième phase était les consultations populaires que j'ai organisées à travers le pays, où nous avons recueilli, évidemment, l'appréhension de la population, du citoyen lambda, sur l'administration de la justice congolaise. Et ce qui va être lancé ce mercredi, c'est la dernière phase des assises proprement dites, d'où la particularité de ces états généraux qui se veulent en fait participatifs, inclusifs, qui tiennent compte de tous les acteurs qui interviennent dans la justice, mais qui tiennent surtout compte de la vie du citoyen lambda, parce que la justice est rendue au nom du citoyen. En 2015, ce sont les intellectuels qui se sont réunis pour réfléchir à la place du citoyen. Mais cette fois-ci, c'est le peuple. C'est le citoyen qui est mis au devant de la scène pour, évidemment, penser, faire le diagnostic et puis proposer la thérapie afin d'améliorer l'administration de notre justice. Les réformes, il ne faut pas avoir peur des réformes. Un gouvernement ne peut pas gouverner sans réforme. En réalité, comme je l'ai toujours dit, un ministre qui passe dans un ministère sans apporter des réformes, en fait, a été un touriste passé dans ces ministères-là. Parce que les questions des sociétés se règlent par des réformes. C'est quoi les réformes ? C'est le constat qui est fait et la solution qui est apportée. Et ça se fait par des lois, par le texte qui régente la société. C'est pourquoi en France, chaque ministre s'empresse d'abord à apporter des réformes, à proposer des projets de loi. Et ces réformes peuvent toucher, par exemple, à la Constitution. Et vous savez, Rouvillois dit, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités sociétales. Tout comme les lois. Les lois peuvent être faites et défaites selon le contexte. Ce sont les hommes qui les élaborent pour pouvoir régler des problèmes précis. Mais lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des failles dans leur application, en tout cas, il convient de pouvoir les adapter. Donc l'adaptation des lois ne devrait pas faire peur aux acteurs politiques, aux gouvernants et aux gouvernés.
Par rapport au cadre de concertation entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature.
Non, je crois qu'il n'y a aucun problème entre le ministre de la Justice et les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature. J'en vais pour preuve la dernière rencontre que nous avons eue autour de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui nous a dicté des instructions claires sur la manière dont la justice doit être rendue au profit de notre peuple. Et qu'il existe évidemment un cadre de concertation qui nous met ensemble pour aborder certaines questions essentielles concernant le fonctionnement de l'appareil judiciaire, à ne pas confondre avec la justice. Et donc, beaucoup des hauts magistrats prendront parole. Entre autres, le président du Conseil supérieur de la magistrature, entre autres, les procureurs généraux près la Cour de cassation, le procureur général constitutionnel, la première présidente du Conseil d'État, l'auditeur général des FRDC, bref, tous les hauts magistrats responsables des différents corps prendront parole, participeront activement à ces sessions. Il ne faut pas confondre certains malentendus sur les réformes en cours, et ce qui est normal, c'est cela la beauté de la démocratie, c'est cela la vitalité de la démocratie. Des réformes qui ne rencontrent pas par moment des incompréhensions n'en sont pas une. C'est pour vous rassurer, mais également vous rassurer qu'il n'y aura aucun problème.
C'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine qui a gravité autour des états généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.